Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés sur les questions de transition environnementale et solidaire. Généralement, ce sont des acteurs de la région marseillaise que nous recevons et ce soir, nous faisons un petit saut dans le Vercors. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver l'émission en rediffusion demain, jeudi 15 juin, entre 9h et 10h, ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr dans la rubrique Écoforum. Sachez que cette émission s'inscrit dans le cadre de la forêt des possibles qui est menée en partenariat avec l'Arbre des imaginaires. Et qu'est-ce que la forêt des possibles ? Eh bien, il faut savoir que dans une société en crise, celle-ci trace et prépare le monde qui vient en faisant émerger un univers foisonnant, interdépendant et résilient. Et surtout, elle vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à trouver votre juste place au travers des témoignages des invités inspirants que nous recevons sur Radio Galère, de l'allégorie de l'arbre, de son wiki et de la forêt de la résilience marseillaise que nous traçons semaine après semaine avec tous les acteurs que nous recevons ici. Et ensemble, nous questionnons la place du « je » dans le « nous » et du « nous » dans le « tout ». C'est-à-dire de comment est-ce que vous, auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez vous investir dans des initiatives qui vous parlent ? Et ensuite, comment est-ce que ces différentes initiatives sont agencées les unes les autres pour tracer la société résiliente que nous voulons voir advenir demain ? Je suis Marin Moffret et accompagné ce soir de Gilliane Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir Gilliane. Et nous recevons Nicolas Herman. Bonsoir Nicolas. Est-ce que tu nous entends Nicolas ? Allô, allô ? Il y a un petit souci sur la ligne pour l'instant, mais ça va vite être résolu. Est-ce que voilà, tu nous entends ? Ah, voilà, tout va bien.
Je vous entends, beaucoup mieux d'ailleurs.
Eh bien, super.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Nicolas. Il y avait effectivement un petit souci de bouton qui était mal appuyé. Nicolas, pour présenter très rapidement, et avant que je te laisse la parole, tu es le fondateur avec ta femme Laura du laboratoire de cosmétiques bio et juste au cœur du parc régional du Vercors qui s'appelle Vercuma. Je te propose de pouvoir te présenter et j'annonce déjà à nos auditeurs et nos auditrices ce que l'on va proposer comme plan pour ce soir. D'abord, tu vas donc te présenter un peu quels ont été tes engagements, quelles sont les choses dans lesquelles tu crois, tes valeurs. Puis ensuite, on parlera des activités de Vercuma. Et enfin, la troisième partie d'émission visera à proposer un certain nombre de trajectoires pour une société résiliente en 2030 autour de grandes thématiques. Mais ça, on en parlera juste après. Et je te laisse la parole tout de suite pour te présenter, Nicolas.
Très bien, ben, merci beaucoup. Donc oui, voilà, Vercuma, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est Laura et moi. Donc, comme tu me proposes de me présenter moi d'abord, je vais le faire. Moi, je suis ingénieur de formation en génie mécanique. J'ai fait un doctorat en acoustique et vibration. Et j'ai commencé par un poste à l'université de Cali en Colombie en génie mécanique avant de tout arrêter pour diverses raisons. Il y avait un certain nombre de choses qui m'allaient pas dans ce que je faisais, dans les enseignements qu'on proposait aux ingénieurs, des approches en ingénierie en général qui me posaient question. Et aussi, surtout, en fait, un peu contraint par la maladie, parce que j'ai une spondylarthrite ankylosante, à revoir un peu, beaucoup, mon mode de vie, ma santé, mon bien-être, pour repenser une façon de vivre, de travailler autour de ça, en acceptant cette maladie. Et donc, du coup, je me suis mis à faire des cosmétiques. Alors, Les cosmétiques, à la base, c'est Laura. Donc, pour la présenter rapidement, Laura, elle est chercheuse en économie d'origine, en économie du développement et du changement climatique. Elle a travaillé... Laura, elle est colombienne, voilà, j'ai pas dit ça. Et elle a travaillé en Colombie sur ces thèmes-là, en France et en Asie aussi. Donc elle a été amenée en fait à rencontrer beaucoup de peuples autochtones indigènes en Colombie et en Asie. Et pareil, elle se questionnait beaucoup sur la manière d'aborder en fait cette thématique d'économie, du développement ou du changement climatique à travers des institutions qui allaient dans un sens qui lui convenait pas nécessairement. Et du coup, quand elle est rentrée après la France, quand elle est rentrée en Colombie, elle s'est retrouvée dans une zone de montagne avec un certain nombre de voisins, des peuples indigènes qui lui ont transmis des connaissances sur les plantes, leurs propriétés, l'utilisation des soins qui peuvent être comme cosmétiques et aussi médicinaux, des utilisations alimentaires. Et en fait, tout est né de ça. Elle a une hypersensibilité aux odeurs qui a fait qu'elle s'est aussi beaucoup questionnée sur l'utilisation d'ingrédients dans tous ces produits-là qui pouvaient lui générer des allergies et donc du coup aussi un asthme qu'elle a eu très longtemps dans sa jeunesse. Mmh. Et quand on a vécu en Colombie, c'était principalement elle qui avait développé l'aspect de recherche sur l'utilisation des plantes dans des cosmétiques comme des savons, des shampoings, des déodorants, et tout est parti de là. Ensuite, on est rentrés tous les deux en France. Le retour, il a été provoqué par ma maladie, parce que là-bas, il y avait un climat, moi, qui ne m'allait pas. Et quand on est revenu en France, on s'est posé la question de faire ça tous les deux. Donc, à partir de ce moment-là, on a réfléchi à créer ce laboratoire, mais avec vraiment en tête de créer quelque chose qui allait générer du bien-être donc non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour nous en tant que personnes, en tant que couple et en tant que famille, parce qu'on a deux enfants qui ont 4 et 7 ans, qui étaient plus petits à l'époque. Mais donc on avait vraiment ce souhait-là d'apporter du bien-être réel, en fait, quelque chose de très très nécessaire et très très simple en fait aux gens.
Et c'est vrai que quand on préparait cette émission, tu m'expliquais que il y avait vraiment une part importante qui était dans tout ce qui était la prise de conscience de soi, de ce bien-être, qui puisse être personnel, familial, de couple. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on souhaite toujours, au début de nos émissions, proposer des trajectoires de vie à nos auditeurs et nos auditrices qui puissent un peu se projeter dans un parcours et être touchés par une identité, une histoire. Et donc là, tu le fais très bien en exprimant ce qui vous ont tous les deux touchés. Toi, si je résume, est-ce que j'entends une rencontre avec une forme de vulnérabilité et pour Laura, une rencontre avec une forme d'hypersensibilité qui vous ont tous les deux questionné sur la juste place que vous vouliez prendre dans vos engagements. Et donc, c'est effectivement une approche d'écologie intégrale, tête, corps, cœur, qui est assez poussée dans ton témoignage. Tu me coupes si j'ai compris un peu de travers, mais il me semble quand même que c'est vraiment qui est au cœur.
Tout à fait ça, oui.
Et donc, effectivement, comme tu le disais, c'est sur la base de ces deux trajectoires que vous entremêlez, Laura et toi, que vous avez créé il y a maintenant quelques années Vercuma. Vercuma qui est, pour le rappeler, un laboratoire de cosmétiques bio simple et juste au cœur du parc régional naturel du Vercors. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et avec tes propres mots ?
Oui, alors... Justement, quand on dit simple et juste, c'est pas toujours compris, mais l'idée des cosmétiques qu'on veut faire, c'est de pouvoir proposer des cosmétiques qui soient quelque chose de réellement nécessaire à la peau, aux cheveux, au corps. Et pas donc avec des formulations qui sont très épurées, desquelles on a choisi d'utiliser aucun ingrédient de synthèse qui sont généralement utilisés en cosmétique. Donc ça va être des ingrédients controversés comme les parfums, des tensioactifs de synthèse, des émulsifiants, des conservateurs. Quand on regarde les listes d'ingrédients en cosmétiques, c'est souvent des listes très longues, incompréhensibles. Mmh. Et l'idée, c'était vraiment de dire comment on peut faire simple en choisissant que des ingrédients actifs. Donc, actifs, ça veut dire qu'ils vont avoir une propriété qui va agir. Et du coup, c'est pas, par exemple, c'est pas un parfum qui vient donner une odeur, mais qui servirait pas. Et du coup, ça va questionner un petit peu les habitudes qu'on a en général sur notre consommation. C'est pas qu'en cosmétique, mais en cosmétique notamment, de pourquoi on utilise ça et qu'est-ce qu'on pourrait changer de manière simple, en fait. Quelles petites habitudes on peut faire évoluer pour que on n'ait pas à utiliser des ingrédients nocifs, en fait. Et nocif, ça va être nocif. C'est là où nous, on fait vraiment quelque chose, on essaye de faire quelque chose d'intégral. C'est nocif pour la santé directe du consommateur, mais aussi nocif lors de la fabrication d'un produit. Parce qu'on va avoir des ingrédients sur le marché qui sont certifiés bio, mais dont le processus de fabrication l'est pas. Par exemple, on utilise des réactifs qui sont pas bio, y a une réaction chimique qui a lieu, et il y a une tierce partie qui est créée lors de cette réaction chimique qui est pas bio, qui est jetée à l'égout, et on garde à la fin quelque chose qui est bio.
Nicolas, est-ce que tu pourrais nous dire, tu l'as un petit peu dit en transparence, mais pourquoi est-ce que les fabricants de cosmétiques utilisent d'autres produits, donc des additifs ou des choses qui ne sont pas forcément, qui sont nocives, tu l'as dit, pour la santé et pour l'environnement. J'imagine que ce n'est pas une volonté d'empoisonner la population à l'origine qui leur fait faire ça, mais qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de nos produits, on retrouve des éléments assez nocifs ?
Ben, y a beaucoup d'habitudes qui viennent de loin. Peut-être ça parlera plus si je prends quelques exemples. Dans beaucoup de produits, on va trouver des tensioactifs de synthèse qui peuvent avoir pour but, par exemple dans les savons ou des shampoings, de faire mousser. On a l'habitude qu'un savon, qu'un shampoing, ça mousse beaucoup, ça donne une sensation d'efficacité qui est habituelle, en fait, enfin qui est généralement satisfaisante.
Oui, on a l'impression que la mousse lave, nettoie, alors que c'est pas forcément le cas.
En plus, oui, les tensioactifs, ils vont avoir un côté décapant aussi, et cette sensation que ça nettoie bien. Alors qu'en fait, on se rend compte que si on s'habitue au fait que ça mousse pas, on peut avoir des savons qui moussent pas, qui sont lavants, qui sont pas décapants et qui en plus peuvent nourrir la peau. Après, il y a d'autres choses, il y a des conservateurs en fait qui sont, il y a des conservateurs très puissants qui sont des conservateurs de synthèse ou des alcools qui sont souvent utilisés parce que il y a eu une époque en fait où pour la création de cosmétiques on exigeait des tests en laboratoire de conservation qui étaient très très contraignants. Et quasiment que ces conservateurs-là, très forts et très très chimiques, permettaient de passer au la main le test.
D'accord. Oui.
Ça c'est un petit peu pour des exemples.
Et si je peux donner un petit retour d'expérience, il se trouve que le shampoing que vous produisez. Et celui que j'utilise depuis maintenant un mois. Et alors, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il faut quand même parfois reconnaître ce qui marche bien. Ça faisait 2 ans que j'essayais de trouver un shampoing qui ne faisait pas des cheveux soit trop gras, soit trop secs, soit trop irrités en permanence, etc. Sachant que j'essayais d'utiliser des choses qui se disaient bio, qui se trouvaient en pharmacie et que ce n'était pas toujours fantastique. Et que le tien, Nicolas, fonctionne particulièrement bien parce qu'il c'est à la fois ni cassant, ni gras, et ça permet d'espacer les shampoings. Alors, je ne pensais pas qu'un jour j'allais vraiment parler de ça à la radio, mais ce retour d'expérience me semble tout de même utile, puisqu'on parle quand même de ce produit qui est concret dans la vie de tout le monde.
Ça tombe bien que tu le dises, parce que je vais aller m'en procurer un pour les mêmes raisons, je pense.
Ouais. Je veux vraiment essayer de conseiller.
Mais par exemple, si tu vois, si je peux me permettre, notre shampoing te convient par exemple comme ça, mais comme je te l'avais dit, pour certains types de cheveux, il est des fois nécessaire de complémenter ces shampoings très naturels par d'autres petites habitudes qui vont venir aider quand on a des particularités sur les cheveux. Et en fait, nous, c'est aussi ces petites choses-là que on essaye de, sur lesquelles on essaye de communiquer, qu'on essaye de vraiment mettre un petit peu au devant, c'est dire voilà, changeons nos habitudes. Tout peut pas être parfait comme ça d'un coup. Des fois, il faut une transition pour arriver à s'adapter à des soins naturels. Donc, par exemple, par rapport aux habitudes qu'on a eues avant, il y a des gens qui vont connaître une transition plus ou moins longue. Donc, on a d'autres petites propositions de soins complémentaires aussi naturels qui vont venir aider suivant les cas. Et il n'y a pas une solution, il n'y a jamais une solution parfaite pour tout le monde, en fait. Et du coup, il faut aussi dire ça. Notre shampoing, il est, nous on l'aime beaucoup. On a eu des retours négatifs aussi, hein, parce que il y a de tout dans le monde, il y a de tout. Et je pense que voilà, il y a aussi plein de propositions qui sont faites. Il y a plein de shampoings bio qui vont bien pour tout le monde, alors qu'ils utilisent des ingrédients, comme je disais, qui sont pas forcément très très bons. Je pense qu'il y a quand même une dynamique intéressante sur ça, là, sur les cosmétiques bio, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi et que des fois, en tant que consommateur, on peut se sentir un peu perdu.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça met aussi le doigt sur une des dynamiques fondamentales des enjeux de transition, a fortiori vers la régénération de ce qui est vivant, c'est de prendre en compte les différences et les nuances, et non pas juste une trajectoire avec un produit et un consommateur type unique, mais des caractéristiques variées auxquelles il faut s'adapter, et donc qui témoignent de toute la richesse de, bah, d'un écosystème. Et nous, humains que nous sommes, c'est aussi le cas, avec des cheveux différents, comme tu viens de le dire, et donc une capacité à savoir, enfin, à ce que le produit fonctionne ou ne fonctionne pas. Et j'aimerais pouvoir t'amener sur ces questions, toujours rester dans l'approche un peu écosystémique. Tu disais que vous aviez une réflexion écologique intégrale, et donc là, on a beaucoup mis le point sur essayer de proposer des produits qui soient simples et bio et sains pour le consommateur, mais tu as aussi parlé d'un certain nombre de procédés qui, pour que ça soit simple et sain également pour vous en amont dans la production. Est-ce que tu veux nous en parler et puis aussi peut-être parler de quelques procédés low-tech que vous essayez de mettre en place?
Ce que je voulais dire, peut-être pour terminer sur ce qu'on disait avant, c'est essayer de vraiment... c'est vraiment de réfléchir la cosmétique comme quelque chose de nécessaire, en fait, et pas... Il y a, pour nous, il n'y a pas de formule anti-âge. En fait, on vieillit, la peau vieillit. Personne ne va inventer quelque chose anti-âge. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de... Quand on parle de formule réparatrice et autres, ce qu'on essaye aussi d'amener comme réflexion, c'est avant de se réparer, en fait, évitons de détruire. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en amont pour éviter, et pas seulement en cosmétique, hein, en consommation alimentaire, d'habitude de vie, pour pas se retrouver à devoir se réparer. Et ça vaut pour beaucoup de sujets, hein, pas que la cosmétique. Mais après, oui, nous, on essaie d'avoir une approche intégrale dans le sens où, en fait, on réfléchit du tout début de l'approvisionnement de nos matières premières. Donc, quelles matières on prend, et quand on parle de cosmétiques justes, c'est qu'on fait vraiment un travail, je pense, assez fourni sur la recherche de nos fournisseurs en matières premières, donc qui sont toutes bio, et qu'on essaye d'avoir le plus local possible. Il y en a certaines qui viennent un peu plus loin, sur lesquelles on va aussi chercher des certifications, par exemple, de commerce équitable, et d'aller demander des informations aux fournisseurs, par exemple, de quel est le producteur, on utilise une huile de coco, donc quel est le producteur de la coco, comment ce producteur rémunère les personnes avec qui il travaille, être sûr, par exemple, qu'il n'y a pas du travail infantile ou animal, parce que c'est souvent le cas dans la culture de la coco. Pareil sur d'autres ingrédients comme ça qui viennent de loin. Quand on n'a pas les réponses, ça arrive souvent, ben, on ne travaille pas avec ces fournisseurs-là. Et après, donc dans nos méthodes de fabrication, toujours d'avoir des énergies, des coûts énergétiques le plus faible possible, pas seulement parce que on n'a pas de sous, mais parce qu'on est convaincu que on y gagnera tous, en fait, à penser des méthodes de fabrication qui sont peu énergivores. Donc, tu me parlais de low-tech. Dernièrement, nous, on a eu un immense défi à relever pour la production d'un savon liquide, de savon et shampoing liquide, qui met très longtemps. Il y a des différentes étapes de cuisson qui sont très longues, donc qui vont durer 8-10 heures. Quand on a commencé à apprendre à faire ça, on le faisait constamment branché sur le secteur avec des machines qui consommaient beaucoup, et on s'est dit que ça ne nous convenait pas, en fait, de faire ça. Donc, on s'est demandé comment, comment faire pour faire autrement. Donc, on s'est creusé la tête, alors pas tout seul. Là, je dois quand même dire qu'on a eu la chance d'être intégré dans des projets avec des écoles d'ingénieurs de Grenoble. Et on a travaillé avec un groupe de 5 étudiants qui nous ont aidés à mettre au point alors une marmite norvégienne qui ou une caisse isolante, comme on préférait l'appeler, parce que la marmite norvégienne, c'est une technique qui est utilisée dans l'alimentaire pour faire cuire à basse température une marmite qui est préalablement chauffée et donc qu'on vient insérer dans ce caisson isolé et qui va garder la chaleur de notre casserole, marmite, pour l'utiliser afin de cuire les aliments très longtemps à basse température. Et nous, on l'a appliqué à plus grande échelle pour la cuisson de ce produit, de savon liquide. Et on a eu des résultats incroyables qui nous ont permis de réduire de 15 fois notre production, notre consommation électrique sur tout le long du process. En plus, en augmentant notre production et en facilitant tout le travail.
Vous avez vraiment réussi à mettre en place quelque chose qui est extrêmement efficient, à la fois sobre et finalement avec des symbioses, des bons outils, avec les bonnes connaissances qui permettent de faire une meilleure production. Et là, à t'écouter, on se rend compte aussi que ce qui a permis ça, c'est de fonctionner avec un écosystème. Et donc, vous êtes allé chercher de la compétence avec ces réseaux d'étudiants qui vous ont aidé. Et une des questions aussi que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que votre initiative s'inscrit dans l'écosystème local dans lequel vous vivez, en fait. Tu disais que tu essayais de travailler le plus possible avec des producteurs locaux. Est-ce qu'il y a toute un petit écosystème qui s'est structuré où chacun a sa place et où vous arrivez à répondre à vos besoins de façon réciproque?
Oui, nous, c'est vraiment l'idée. En plus, on a quand même la chance d'être sur un territoire qui propose des savoir-faire très variés. Donc, ça va de l'imprimerie à la production de matières premières. Il y a certaines personnes... Alors, à 1000 mètres, on ne cultive pas... tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des productions de plantes de montagne qui ont des propriétés incroyables pour la peau, pour les cheveux. On travaille avec des acteurs donc qui font plein de petits éléments, de panneaux, des éléments visuels en bois ou autre. Il y a un low-tech lab, un Fab Lab, avec qui on travaille, qui nous permettent de créer des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on avait dû le faire ailleurs. Donc il y a vraiment tout ça, tous ces acteurs-là que nous on va solliciter et puis on adore travailler avec les gens d'ici parce que ça crée vraiment une émulation qui est super chouette. Et puis après c'est nous on réfléchit aussi en termes de distribution. On n'a pas ambition à grandir. Pour l'instant on est deux. Disons qu'on entrevoit l'idée peut-être un jour d'avoir, je ne sais pas, une ou deux personnes en plus. Mais l'idée, ça, c'est vraiment d'essayer de trouver tous les moyens de pouvoir fonctionner en ultra-local. Donc, si on prend que la vente un peu classique dans les magasins en direct... C'est pas suffisant parce que malgré qu'on ait du tourisme qui apporte quelque chose, nous on a voulu fonctionner dès le début en se disant on dépend pas, on veut pas dépendre du tourisme parce que on est sur un territoire qui va être amené à évoluer. On a de moins en moins de neige, donc les hivers vont changer. Le climat est en train de changer. En tout cas, on s'est dit, c'est pas quelque chose qu'on veut construire autour du tourisme. On aimerait fonctionner toute l'année et ça va aussi dans le sens de, on n'a pas envie d'avoir des périodes ultra chargées parce que le tourisme, ça fait ça. On va avoir des périodes de 2-3 mois où on va travailler vraiment énormément. Et du coup, on réfléchit à comment, en fait, on peut travailler en local, quelles sont les différentes manières de proposer nos services, nos produits. Donc, cette histoire du savon liquide, c'est ça. On sait, après le Covid, il y en a beaucoup qui sont revenus avec les mains écarlates à cause de l'utilisation excessive des lavages de mains, donc des savons qui étaient proposés dans les écoles. Et nous, on peut proposer un savon qui est très bon, qui est nourrissant, qui abîme pas la peau, qui ne contient pas de produits cancérigènes, ce qui était le cas des autres. Et on propose ça aux écoles, aux crèches, dans les hôtels. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on est en train de mettre en place. Et il y a encore plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de faire qui peuvent nous permettre de fonctionner en ultra local et d'arriver à en vivre.
Et ce qu'on entend, c'est qu'il y a plutôt que la recherche du gain et de la croissance, vous êtes plus dans une recherche du juste équilibre et d'une durabilité pour vous et puis pour l'écosystème qui se trouve autour. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que donc là, on a vraiment parlé des procédés que vous essayez de mettre en place dans une écologie intégrale avec beaucoup de pans qui sont réfléchis dans le cadre de ce que vous faites avec Vercuma. Et ce qui est intéressant, c'est que ça trace aussi des trajectoires de la société que nous devrions ou que nous pourrions devenir face aux grands bouleversements qui nous traversent. Et on en parlera juste après la pause musicale, Nicolas. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse justement ce petit moment de respiration, que tu nous dises quelle est la musique que tu as décidé de nous faire écouter. Et puis dans la deuxième partie d'émission, on pourra tracer un peu des grandes orientations que la société peut prendre, donc que vous incarnez par ses engagements. Je te laisse nous dire ce qu'on écoute juste tout de suite.
Donc on va écouter une chanson de Mercedes Sosa, qui est une chanteuse chilienne et poète, qui chante Todo Cambia.
À tout de suite.
À tout de suite.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia, sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Vous êtes de retour sur Radio Galère, sur le 88.4, dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux actrices et aux acteurs des transitions environnementales et solidaires. Nous sommes toujours le mercredi 14 juin 2023, en direct de 19h à 20h dans le cadre de la Forêt des Possibles, et toujours avec Nicolas Herman qui nous présente le projet de Vercuma, qui est... un laboratoire de cosmétiques bio simples et justes au cœur du parc naturel régional du Vercors. Et avant cette petite intermisse musicale, Nicolas, tu nous as vraiment présenté ton parcours et puis ensuite les différents projets, procédés et approches d'écologie intégrale que vous mettez en place avec Laura et puis ta famille aussi, tes deux enfants, puisque c'est un projet finalement qui concerne vous quatre, ce que vous faites dans le Vercors. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de reprendre une partie de ces thématiques qu'on a abordées sur le plan ultra-local et essayer de se poser la question de savoir si c'est réplicable. Et ça, nous, dans la Forêt des Possibles, ça rentre un peu dans le cadre d'un individu qui s'investit dans des collectifs et puis les collectifs ensuite qui essayent de transformer le système. Donc là, on va essayer de tracer un peu ensemble quelques horizons d'une société résiliente. Et on a choisi trois thèmes qu'on a déjà très largement abordés lors de la première partie d'émission. Le premier thème, c'est des questions liées à l'économie et puis une résilience écosystémique. Comment est-ce qu'on arrive à vivre dignement pour soi et puis en relation avec les autres? Deuxième thème, c'est des approches low-tech et leur réplicabilité. Et puis le troisième thème, c'est un peu des réflexions sur le soin. Et donc on va débuter avec ce premier thème, Nicolas, donc l'économie et la résilience écosystémique. Et je voulais avoir un peu ton regard sur la possibilité de répliquer des approches économiques comme celles que vous menez avec Laura à une échelle suffisamment grande pour que la société tout entière puisse basculer.
Oui, alors, énormément de choses à dire. D'abord, je pense qu'il y avait un truc peut-être qu'on n'a pas suffisamment détaillé, c'était par rapport au modèle économique, notre modèle économique. Donc si je peux, je reprends un
bien sûr
vite fait là-dessus. Parce que ce qui est important de voir par rapport à notre modèle économique, donc c'est on a déjà parlé du choix d'ingrédients très nobles, très justes, de formules, de formulations cosmétiques très épurées, sans ingrédients de synthèse. Donc qui nous permettent d'avoir des produits et de proposer des produits sur lesquels on va avoir une forte valeur ajoutée, sans pour autant tomber dans une niche hein, destinée à du luxe ou à un public qui va chercher des cosmétiques de luxe, donc qui reste abordable, certes ce ne sera pas les premiers prix, mais qui reste abordable. Et ce qu'il faut aussi voir par rapport à ce modèle économique, c'est que donc nous, on est à deux et on fait tout. Donc, ça veut dire que y a de la production, du conditionnement, il y a de la vente, du démarchage, de la gestion, du marketing, de la communication. Donc, on s'amène à pouvoir tout faire, alors qu'on ne sait pas tout faire. Là, loin de là. Hein. Laura, formation d'économiste. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. Personne de nous deux ne savait vendre, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'arriver à... Enfin, d'avoir envie, en plus, de le faire, et d'arriver petit à petit à s'améliorer et à faire toutes ces choses-là. Alors, on ne fait pas tout. Il y a quand même des choses, c'est pas nous qui imprimons nos étiquettes, nos emballages, etc. Mais on fait beaucoup de choses. Et dans l'idée de la réplicabilité, je pense qu'on est loin d'être des personnes surhumaines ou avec des capacités intellectuelles inatteignable, je ne sais quoi, et beaucoup de gens pourraient reprendre ça, et moi je pense que c'est quelque chose qui est réplicable, et on souhaite en fait justement qu'il y ait plein de petites de laboratoires qui puissent naître comme ça. Et du coup c'est drôle parce que j'en parlais justement aujourd'hui avec un autre savonnier donc nous, qui a la même mention bio que nous, qui s'appelle Nature et Progrès. Et dans cette mention, en fait, on va s'enquêter avec des consommateurs, on va enquêter les uns les autres. Et il y a certains laboratoires cosmétiques qui veulent pas être enquêtés par d'autres personnes qui ont la même activité ou le même secteur d'activité qu'eux. Et on disait ce matin, en fait, avec cet autre savonnier, que nous, on n'avait pas de problème avec ça, parce qu'on avait une vision similaire qui est que plus il y aura d'entreprises, de démarches comme celle-là, plus on arrivera à contrecarrer, en fait, celles qui ne vont pas dans le même sens, qui pour nous ne vont pas dans le bon sens. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite, nous, communiquer sur nos manières de faire, nos valeurs, nos engagements, pour que d'autres fassent la même chose que nous.
Et donc par exemple, vous seriez prêt à transmettre l'expérience que vous avez eue avec l'adaptation de la marmite norvégienne pour que d'autres savonniers puissent se leur approprier? Et juste pour peut-être pour préciser à certains auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est une low-tech, c'est une technologie qui est accessible à tous, réparable et durable, et donc qu'on peut se réapproprier, qu'on peut réparer. Donc là, avec le procédé dont tu nous parlais tout à l'heure, vous êtes capable, vous, de le réparer, de le réutiliser, et ce n'est pas une machine hyper complexe qui nécessite l'intervention d'un technicien.
Et donc, non, et puis surtout, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, ça existe déjà. La simple chose qu'on ait faite, c'est de dire on utilise... cette technique pour faire ça. Ça, et c'est pas ça, à notre connaissance, ça n'a jamais été fait. Et on a communiqué dessus, parce qu'on est quand même très content du résultat et un petit peu fier. Hein,
il faut célébrer les petites victoires.
Et voilà. Les grandes.
Et du coup, on n'a pas caché qu'on faisait comme ça. Au contraire, on a communiqué en disant c'est top. Maintenant, comme... Si on va sur Internet et qu'on cherche comment faire une marmite norvégienne, il y a plein de tutos qui sont proposés pour le faire. Il faut juste adapter les dimensions à ce qu'on veut faire.
Tu parlais tout à l'heure de Fab Lab et j'aimerais bien qu'on puisse en reparler un petit peu parce que nous, on essaie de faire le lien entre les structures qu'on reçoit à la radio toutes les semaines. Et il se trouve que au début du mois de janvier, on a reçu Amerma à Marseille. Et Amerma, ce sont David Benahim et Lucas Zuffi qui travaillent sur la structuration d'un réseau industriel low-tech et local, avec justement la création de petits Fab Labs à différents endroits de la ville de Marseille qui pourraient être jumelés avec ce qu'on appelle des pôles multimodaux, donc dans un même espace où on pourrait avoir à la fois de la fabrication et puis aussi des espaces de stockage pour qu'il y ait des moindres distances qui puissent être parcourues dans les échanges de matériaux, de produits, de déchets, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites et puis éventuellement les interactions que ça peut avoir avec les autres acteurs du territoire à ce titre-là?
Alors, le Fab Lab, c'est pas nous. Hein. C'est,
ouais. Justement, c'est les interactions, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de voir que vous avez pu travailler avec eux.
Alors oui, il y a une association, en fait, ça part d'un tiers-lieu à Autran qui s'appelle la Jolie Colo. Dans lequel il y avait déjà donc des habitants, des activités, donc des entreprises qui sont sur ce tiers-lieu et tout une salle de répétition et tout un écosystème hyper créatif, hyper intéressant, très enrichissant pour le territoire pour le coup. Et récemment, eux ont monté un Fab Lab dans le but de proposer son utilisation ouverte à des entreprises ou des particuliers pour réparer des objets, pour créer des projets. Et nous, on a utilisé ce Fab Lab pour un projet à nous qui est en train de voir le jour. De vente en vrac où on veut pouvoir concevoir un habillage pour la vente en vrac qui puisse être reproductible et interchangeable à souhait en fait et aussi modulable en fonction des différentes demandes qu'on aurait des magasins Bon, après, je serais pas la meilleure personne, je pense, pour parler exactement de ce Fab Lab. Je sais qu'il est toujours en cours d'évolution. Il y a eu un certain nombre de machines qui ont été achetées, un début de matériothèque qui a été pensé pour pouvoir récupérer des matériaux, les utiliser.
Ma question tourne autour du Fab Lab, mais tourne aussi autour du fait que la low-tech que Gillian a tout à l'heure extrêmement bien résumé dans sa définition, que ça puisse être des choses qui se mettent en place à des échelles plus larges que les bobos ou les marginaux, comme parfois ça peut être trop malheureusement critiqué. Et lorsqu'on préparait l'émission, tu nous parlais d'une foire bio, Nicolas. Est-ce que tu veux dire deux mots sur ce sujet-là?
Ouais, alors, tous les ans, en fait, il y a une foire bio qui est organisée sur Autran et au Grand Vercors, donc dans notre commune. Et cette année, en fait, il y a deux thèmes principaux au sein de la foire bio, qui vont être le low-tech et la sobriété énergétique. Donc là, l'idée, ça va être de mettre en avant, d'expliquer le low-tech, mettre en avant certaines techniques qui sont utilisées par des entreprises, que les entreprises qui ont des techniques low-tech puissent aussi se mettre en avant, parce que des fois quand on a son entreprise, on bidouille des choses sans trop savoir plutôt pour arriver à un but, et en fait c'est quelque chose qui pourrait servir à d'autres. Donc le fait de mettre en avant ces techniques là peut amener, comme nous avec la marmite norvégienne qu'on présentera lors de la foire bio, peut amener d'autres personnes à faire la même chose. Et c'est là où tout le monde y gagne, en fait, si on arrive à reproduire ces techniques-là. Et du coup, il y a aussi un low-tech lab qui voit le jour, enfin, qui a déjà vu le jour, sur le Vercors. Et donc, c'est vraiment d'essayer de créer une émulation autour de ça pour que ça soit de plus en plus utilisé.
Là, l'émulation est déjà assez forte à t'écouter dans le Vercors.
Elle ne sera jamais assez, mais ça c'est...
Ah, justement, là, cette dernière partie d'émission vise à essayer de tracer des possibilités pour que ça puisse l'être plus. Et selon toi, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça puisse s'étendre? Et donc là, par exemple, si on part du Vercors, que ça puisse au moins aller jusqu'à Grenoble.
Ça serait un peu prétentieux de dire qu'on doit s'étendre à Grenoble, parce que Grenoble, ils ont quand même bien développé cette partie-là.
Alors Marseille.
Peut-être. je sais pas trop ce qui se fait à Marseille, mais c'est sûr que moi je pense que c'est des choses qui sont amenées à se développer, parce que je sais pas, il y a beaucoup de choses de produits. Les gens en ont souvent un peu marre d'avoir des produits qui se cassent. On pourrait rien faire. Est-ce qu'on peut rien faire? Est-ce qu'il n'y a pas, on peut pas réparer, trouver une alternative pour faire ce qu'un outil électrique faisait? Nous, par exemple, là, on est en train de mettre au point une brasseuse. C'est comme un espèce de grand bras métallique qui vient remuer les grands volumes de savon mélangés à de l'eau. Et on faisait ça à la main. On faisait ça avec une perceuse. Et on s'est dit, mais c'est quand même bête de faire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et le low-tech lab est en train de nous concevoir une brasseuse manuelle. Je sais pas, ça répond pas à ta question, je crois, mais parce que je saurais pas comment, tu veux dire, le populariser, en fait.
En tout cas, on essaie de tracer des pistes, et on espère que ton témoignage sera en convaincre, ou donner des idées, ou interloquer, ou choquer, en fonction de là où on se situe sur ces sujets-là. Il nous reste 2 minutes, aussi. Nicolas.
Oui, pardon.
Alors, peut-être que, donc, un peu moins de 2 minutes même, que tu puisses répondre à ce que tu voulais dire, et puis ensuite, on fera une petite conclusion avec un petit mot de la fin.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui rend ça possible aussi, c'est de pas chercher à aller vite, en fait. Parce que quand on monte une entreprise, peut-être comme la nôtre, une autre, et qu'on veut aller très vite, on va vers des solutions qui sont tout de suite efficaces, et qui sont pas forcément les moins énergivores, mais qui sont aussi plus coûteuses. Donc certainement, une des solutions, c'est de ralentir, en fait.
Est-ce que c'est pas une superbe conclusion?
Je sais pas.
Qu'en penses-tu, Gilliatt?
Oui, je pense que oui.
C'est, moi, ça me semble une très belle conclusion, en tout cas une conclusion philosophique sur cette conversation. Peut-être que pour que celles et ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par les produits que vous vendez, Nicolas, puissent au moins savoir où, où vous retrouver, tu peux nous donner quelques informations pratiques, le site internet, etc.
Oui. Alors, on n'était pas là hein, pour faire de la pub, mais il y a un site qui est vercuma.com qu'on essaye d'alimenter. Bon, entre autres, il y a une boutique en ligne, mais il y a surtout aussi plein d'informations. Depuis peu, il y a un blog avec des articles. On va essayer de faire une newsletter régulière. Alors, on va faire le mieux qu'on peut pour que ça soit régulier, justement pour mettre en avant toutes ces idées, toutes les petites idées qu'on a, qu'on trouve chouettes, du low-tech à d'autres. Et après, il faut venir nous voir, parce qu'on a encore plein de choses à dire, on a mis plein de choses. Le Vercors, c'est magnifique, et par là, dans les magasins autour, il y a nos produits aussi. Donc, si vous venez nous voir, malheureusement, à Marseille, on n'a pas de point de vente, et c'est pas prévu.
Et bah merci beaucoup. Pas de point de vente à Marseille, mais en tout cas on peut vous retrouver sur internet. Et puis effectivement, l'idée ce n'est pas de faire de la pub, mais c'est de mettre en avant des initiatives qui tracent les horizons de la société que nous avons à construire si nous voulons répondre aux enjeux qui s'accélèrent, pour le coup, toi qui nous enjoins à ralentir. Merci beaucoup Nicolas Hermand, merci Gillian pour cette émission ce soir.
Merci à vous deux.
Et merci énormément de m'avoir invité, je suis très flatté.
Et bah c'est un très grand plaisir Nicolas, et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur Radio Galère dans l'émission Écoforum. Bonne soirée à toutes et tous.
Au revoir.
Au revoir.